Bonjour, bienvenue à ce module. C'est un plaisir de vous retrouver. Mon nom est Hélène Delisle. Le counseling nutritionnel est un aspect extrêmement important de la formation à l'auto-prise en charge et très étroitement relié à l'éducation thérapeutique. C'est pourquoi nous avons inclus ce module ici. On parle de counseling plutôt que de conseil. Bien sûr, le counseling comprend la dispensation de conseils aux patients, mais c'est beaucoup plus large. C'est une forme d'intervention psychologique et sociale qui vise à aider quelqu'un à surmonter les difficultés d'adaptation à une situation donnée. En l'occurrence, les difficultés de suivre un plan d'alimentation qui représente une adaptation non négligeable de ses habitudes alimentaires. En tant que professionnel de la santé, donc c'est une approche centrée sur le patient qui vise à l'orienter, l'aider, l'informer, le soutenir et le traiter, en l'occurrence, l'aider à prévoir, à planifier son alimentation. Le counseling nutritionnel correspond à l'éducation nutritionnelle, mais au niveau individuel. C'est à peu près aussi ce qu'on entend par conseil nutritionnel dans le sens de consultation. Mais je préfère le terme de coaching, excusez l'anglicisme, qui correspond vraiment à ce que c'est-à-dire orienter, informer, aider, supporter le patient et en l'occurrence l'aider avec son plan d'alimentation. Comme on le voit ici, le counseling nutritionnel est un processus. C'est un processus de résolution de problèmes basé sur le raisonnement clinique qui consiste à utiliser toutes les informations provenant du patient, mais aussi de l'évaluation clinique, biochimique et physique, pour en arriver à prendre des décisions éclairées sur le traitement, mais en l'occurrence sur le plan d'alimentation. C'est un excellent modèle qu'on doit à Atkins en 2012. Et avant de parler de chaque étape de ce processus, voyons, si vous voulez en gros, qu'est-ce qu'il en est de cette démarche de counseling nutritionnel? Nous l'avons déjà dit, le patient est au cœur de ce processus qui est interactif. Il est fondé sur le raisonnement clinique et l'intervenant utilise l'information de différentes sources, mais concernant, s'agissant du patient, de ses préférences et des obstacles qu'il pressant ou qu'il expérimente dans le changement de comportement. Les étapes, donc, sont, nous l'avons vu, le bilan nutritionnel initial ou l'évaluation nutritionnelle initiale, le diagnostic nutritionnel, l'intervention elle-même, éducative, avec établissement des objectifs et priorités, l'enseignement du patient et le plan d'action, qui est le plan d'alimentation, avec ensuite le suivi-évaluation. Le bilan ou évaluation nutritionnelle initiale, il s'agit d'évaluer l'état nutritionnel du patient, surtout par l'anthropométrie, ses besoins nutritionnels, surtout énergétiques en fonction de l'âge, du sexe, du poids et de l'activité physique, de son alimentation et du contexte socio-économique et familial, et d'éventuelles allergies et aversions alimentaires. Comme on le voit, l'évaluation nutritionnelle porte sur l'état physiologique, physique et clinique, mais aussi les besoins nutritionnels, ainsi que l'alimentation et les facteurs qui les influencent. Voici quelques questions ouvertes qui permettent d'explorer l'alimentation avec le patient. Il s'agit de questions non directives. Pouvez-vous me parler de votre alimentation depuis que vous avez eu le diagnostic de diabète? Selon vous, comment une personne vivant avec le diabète devrait-elle s'alimenter? Pensez-vous avoir des difficultés particulières avec votre alimentation? Alors, ces questions qui paraissent simples peuvent aider le thérapeute à apprécier l'alimentation. Il existe différentes méthodes d'estimation de la consommation alimentaire qui sont applicables en clinique. Il y a notamment le rappel oral des ingérés de la dernière journée, avec ou sans estimation des portions. En général, on n'estimera pas les portions parce que c'est assez difficile, à moins d'un besoin de le faire. Le rappel oral, donc, de l'alimentation de 24 heures donne une idée globale de la qualité et de la diversité de l'alimentation. Il y a aussi les questionnaires de fréquence de consommation. Ceci peut être intéressant pour évaluer la consommation, par exemple, de fruits et légumes ou à l'opposé d'aliments industriels très transformés. Autres indices de la qualité de l'alimentation. Il y a aussi l'histoire diététique qui revient sur les habitudes alimentaires. Il est bien certain que le médecin a peu de temps, dans la plupart des cas, à consacrer à l'alimentation. Mais vous le savez, ce que dit le médecin a énormément d'impact sur le patient, d'où l'importance pour le médecin d'être convaincu du rôle central de l'alimentation et de fournir des renseignements généraux, quitte à référer le patient à une personne spécialisée en nutrition, un autre thérapeute, si cette personne existe. Sinon, il est impératif que le médecin lui-même fasse une évaluation, même superficielle et sommaire, de l'alimentation, de l'état nutritionnel de la personne, pour ensuite l'orienter adéquatement. Dans l'histoire diététique, on explore, bien sûr, les habitudes alimentaires. Un jour normal, c'est important parce que l'alimentation de la veille, par exemple, si elle n'est pas représentative de l'alimentation habituelle, ne sert pas à grand-chose. On évalue aussi la taille des portions, les achats quotidiens, hebdomadaires, mensuels, les repas pris à l'extérieur ou à emporter, les aliments préférés, les choix de certains aliments, par exemple, lorsque ça s'applique, les variantes de produits laitiers, la disponibilité, les moyens financiers, et enfin, comment la personne gère sa faim. Ce qui nous semble particulièrement important d'explorer pour mieux comprendre le contexte et les habitudes alimentaires de la personne, ce sont d'abord les repas qui sont pris à l'extérieur ou à emporter, car ceci modifie les possibilités de choix. Ensuite, la disponibilité et les moyens financiers. Car dans l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire des limites dans l'accès économique aux aliments, à la nourriture, en cas donc d'insécurité alimentaire, il y a des difficultés à avoir une alimentation santé et suffisamment diversifiée. Comment la personne gère sa faim? C'est important aussi de savoir comment la personne réagit à des stimuli intérieurs de faim, mais aussi comment la nourriture intervient ou non en réponse à d'autres stimuli comme l'isolement, la dépression, le stress, l'ennui. Et bien sûr, réponse à des stimuli externes, comme par exemple la présence de nourriture. Lorsqu'on essaie d'évaluer l'alimentation par rappel, il faut tenir compte, bien sûr, non seulement des difficultés, elles sont réelles, mais aussi des limites de ces méthodes. Ces méthodes sont d'abord basées sur la mémoire. Or, on le sait, la mémoire est une faculté qui oublie. Ensuite, le patient peut être sélectif dans ce qu'il rapporte, car bien souvent, il sait ce qu'il devrait manger, mais il n'osera peut-être pas le dire. On sait que les personnes en surpoids ont tendance à sous-estimer leurs apports, alors que les personnes maigres ont tendance à surestimer leurs apports. Alors, voilà une limite. Ensuite, il est bien difficile d'estimer les portions et donc les quantités consommées. Et les quantités de nourriture sont un aspect non négligeable. Enfin, les habitudes alimentaires peuvent changer au fil du temps, surtout si la personne a dû modifier un peu son alimentation en raison de conditions cliniques particulières. Alors, c'était l'évaluation initiale qui va amener à produire un diagnostic nutritionnel qui s'appuie sur le raisonnement clinique dont nous avons déjà parlé et qui sert de point de repère pour établir les objectifs et personnaliser le plan d'action pour l'alimentation. Ce diagnostic comprend trois éléments: le problème, les causes, les signes et symptômes. Ce diagnostic est basé sur les données anthropométriques, physiques, les données biochimiques et médicales, dont principalement l'hémoglobine glycée ou un autre marqueur de contrôle métabolique, le bilan lipidique et rénal et l'évolution de la situation clinique. Il est basé aussi sur les résultats de l'évaluation de l'alimentation au premier stade et enfin sur les CAP, c'est-à-dire connaissances, croyances, attitudes et pratiques du patient en matière d'adaptation de son alimentation au diabète. Donc, trois aspects problématiques ou un énoncé en trois étapes: problématique, cause, signe. Problématique, ce que l'évaluation révèle comme erreur ou inadéquation au niveau de l'alimentation. Par exemple, un apport excessif en énergie, en gras, en sucre. Une consommation insuffisante de fruits et légumes. Ce sont des exemples de problèmes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce problème? Eh bien, ce peut être un goût immodéré pour les aliments gras et sucreries, l'insécurité alimentaire, défaut d'accès économique ou physique aux aliments frais. D'autres causes pourraient être que la personne qui choisit les aliments n'est pas le patient lui-même, ou encore, ce peut être que, en raison de nombreux repas pris à l'extérieur, par exemple sur les lieux de travail, les choix sont extrêmement limités. Alors, PCS, quels sont les signes? Eh bien, ce qui peut être vérifié par les données, ce serait par exemple le surpoids, le LDL cholestérol élevé, une tension artérielle élevée ou alors, dans le cas du diabète, bien sûr, un mauvais contrôle glycémique. Nous passons à l'étape 3, qui est l'intervention éducative. Cette intervention consiste en une action planifiée dans le but bien déterminé de modifier un comportement lié à la nutrition ou un facteur de risque ou un aspect de l'état nutritionnel. Il consiste à établir des objectifs et priorités avec le patient et en fonction de ce qu'il est en mesure de réaliser, l'enseignement au patient et le plan d'action. Vous aurez davantage d'informations sur ceci dans le module sur l'éducation thérapeutique ainsi que dans le module sur les changements de comportement. Les trois aspects dont il était question, problème, cause et signe, sont parfois très étroitement reliés. Par exemple, si le but est de modifier l'alimentation pour réaliser une perte de poids nécessaire à un meilleur contrôle glycémique ou à la réduction de la tension artérielle. L'entrevue ou l'entretien motivationnel a une place importante dans ce counseling, car cette entrevue permet d'aider les patients à modifier leur comportement alimentaire et leur mode de vie dans le sens souhaité. dire aux patients ce qu'ils doivent faire et à leur donner des conseils à tort et à travers n'a jamais servi à rien. Et pourtant, c'est ce qu'on a tendance, trop souvent, hélas, à continuer à faire. Il faut se préoccuper qu'ils soient pertinents, que le patient soit motivé et qu'il soit à même de surmonter les obstacles. En effet, l'entrevue motivationnelle vise à apprécier ce degré de motivation de préparation au changement de la part du patient, à le convaincre de l'importance du changement d'alimentation et mode de vie, quels sont les bienfaits qu'il en retirera pour sa santé, et enfin, à l'aider à identifier ses obstacles au changement et les moyens de les contourner. On établira avec le patient des objectifs et priorités. C'est une approche éducative de collaboration et plutôt qu'une approche hiérarchique du professionnel vis-à-vis le patient. L'établissement des objectifs et priorités résultera des échanges sur les questions suivantes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont vos principales préoccupations? Qu'est-ce que vous souhaitez changer? Et comment vous pensez pouvoir le faire? Les objectifs et priorités sont formulés par rapport aux principes alimentaires et nutritionnels généraux pour une alimentation santé ou plus spécifiquement pour les personnes diabétiques. Ce sont des objectifs et priorités que le patient est capable de réaliser moyennant une orientation et un appui suffisant et qui peuvent être modifiés en fonction de l'enseignement donné par le professionnel de la santé. Une bonne référence à ce sujet, c'est le référentiel de bonne pratique de Masbeuf de l'Association française de diabète. Je le disais, cet enseignement aux patients adopte une approche de collaboration plutôt qu'une approche hiérarchique. Nous avons vu précédemment quelques conseils généraux pour une alimentation santé qui s'adressent à toute la population. Ces conseils généraux peuvent servir de base à l'enseignement sans avoir recours à des calculs, pourvu bien sûr qu'on adapte au patient et à son contexte pour en faire des conseils très pratique et appropriée. Quels sont ces conseils pratiques généraux, parmi lesquels on choisira ceux qui sont le plus pertinents et prioritaires pour un patient et qui seront ensuite traduits en termes extrêmement concrets et pratiques? Qu'est-ce que la personne fera? Eh bien, en voici quelques-uns. Limiter les aliments gras, surtout d'origine animale, qui contiennent beaucoup d'acides gras saturés. Utiliser des méthodes de cuisson impliquant peu de graisse ou huile. Ce peuvent être la cuisson à la vapeur, des grillades, ou alors les cuissons lentes avec peu de corps gras. Un autre conseil, réduire au minimum la consommation de sucreries, c'est-à-dire bonbons et aliments sucrés et boissons sucrées. Et enfin, et c'est très important, utiliser le plus d'aliments frais possible ou peu transformés, limitant les aliments et boissons industriels qui sont très souvent, hélas, pauvres en fibres, mais riches en gras, en sucre et parfois en sel également. D'autres conseils de base, c'est ici un rappel, mais ces conseils, je le disais, servent de matrice d'assises pour le counseling. Consommer plusieurs fois par jour des fruits et des légumes, plus précisément des fruits et légumes colorés qui sont plus riches en vitamines A et autres antioxydants. Ensuite, un conseil important, préférer les fruits entiers au jus, car ils sont plus riches en fibres, moins concentrés dans le sucre des fruits. Prendre surtout de l'eau comme boisson, on ne le répétera jamais assez. Les autres boissons sont généralement sucrées et pauvres en nutriments. Ne pas sauter le repas, ce qui est particulièrement important pour la personne vivant avec le diabète. Et dans le cas de surpoids, restreindre les calories, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, on élimine d'abord le superflu, c'est-à-dire les snacks, les aliments industriels très transformés. Quelques conseils généraux servant de base aussi à l'orientation, à l'éducation de la personne vivant avec le diabète et qui sont particulièrement importants dans ce contexte. D'abord, s'agissant des repas, on l'a dit, ne pas sauter de repas, mais prendre un petit déjeuner et avoir une alimentation aussi régulière en termes de répartition des prises alimentaires, aussi régulière que possible. Les quantités de nourriture, surtout si le surpoids est un problème, eh bien, contrôler les portions et les réduire progressivement, surtout dans le groupe des céréales et féculents. C'est là qu'on peut jouer. Et bien sûr, une fois qu'on aura éliminé le superflu, c'est-à-dire, je le disais, les snacks, les boissons sucrées, les sucreries, les aliments ultra transformés. Un bon truc, c'est de ne pas se resservir, de manger lentement, de sorte que la satiété s'installe, ce qui ne se fait pas si on mange beaucoup, si on mange rapidement, auquel cas on mange beaucoup plus. Et dans les cas où ça s'applique, ne pas garder d'aliments tentants qu'on voudrait éviter à la maison. S'agissant maintenant du choix des aliments, eh bien consommer des aliments de plusieurs groupes tous les jours. Et s'agissant des aliments contenant des glucides, donner la préférence à ceux qui ont un indice glycémique bas. Nous avons déjà vu cette notion dans le chapitre sur les éléments pratiques d'intervention diététique. Le plan d'action maintenant, autre étape, on discute des priorités de changement dans l'alimentation avec le patient et c'est le patient qui fixe, en collaboration avec le thérapeute, des objectifs réalistes. Un à la fois, pas tous ensemble, on n'y arrivera pas. Un à la fois, qu'est-ce qui est prioritaire? Manger des légumes, pardon, au repas du midi et du soir, prendre 3 repas par jour, boire de l'eau plutôt que du soda, etc. Il est à noter qu'on n'a pas besoin de faire des calculs compliqué, à moins que le patient soit en mesure de suivre les indications chiffrées et quantifiées, et ce, particulièrement s'il est sous insuline. Dernière étape du processus, le suivi nutritionnel et la réévaluation. Ce suivi nutritionnel est important car il permet de vérifier dans quelle mesure les objectifs sont atteints, d'encourager le patient, éventuellement de réviser le plan d'alimentation. La fréquence de ce suivi sera à déterminer cas par cas. Mais généralement, les visites seront plus fréquentes au début du traitement, c'est-à-dire peu de temps après le diagnostic. Mais comme le renforcement, l'encouragement par le personnel soignant est important, il faudra en tenir compte pour que ces visites soient aussi fréquentes que nécessaire et pour aider le patient à persister dans la poursuite des objectifs alimentaires établis dans le plan. À noter que les résultats de l'intervention diététique mettent en général entre 6 semaines et 3 mois à se manifester. On saura alors si les objectifs sont atteints. Mais attention, il ne s'agit pas de culpabiliser ou de décourager le patient. Il est possible que même s'il fait de gros efforts et qu'il suit son plan d'alimentation, les résultats cliniques et biochimiques ne soient pas au rendez-vous. Il faut bien savoir que le diabète est une maladie qui évolue. Alors, Les composantes du suivi et l'évaluation, on évalue avec le patient les progrès accomplis vers les objectifs diététiques et on tient compte bien sûr des résultats cliniques auxquels on va rapprocher les progrès dans l'alimentation. On va identifier avec le patient, le cas échéant, les raisons qui ont fait que la personne ne s'est pas tenue au plan d'alimentation, n'a pas atteint les objectifs, et au besoin, on réévaluera, on modifiera les objectifs initiaux, ce qui se traduira dans le plan d'alimentation, avec le patient toujours. Et je le disais, le patient ne doit surtout pas être culpabilisé. Alors, j'espère que ce module sur le counseling nutritionnel vous sera utile. Je ne saurais trop vous encourager à lire l'article dans le dossier de lecture sur le counseling. Et d'autres ressources en français sont citées ici. Vous trouverez ces ressources dans la revue bibliographique, autre document qui est joint au chapitre. Je vous remercie et vous souhaite bonne étude.